Quatrième et dernier temps de notre série « L'Amérique et nous ». Aujourd'hui, nous nous demandons comment s'est construite l'image de l'Ouest américain en France. Du mythe du bon sauvage à la conquête de l'Ouest, de Fenimore Cooper à Buffalo Bill, nous allons cheminer ce matin sur les pas des voyageurs, des géographes, des historiens, des écrivains et peut-être même des cinéastes qui ont imaginé un Far West pour Européens. Comment ont évolué les représentations de l'Ouest américain en France? Quelle place a-t-on donné à l'idée de frontière dans notre vision de l'Amérique? C'est ce que nous verrons avec Victor Massé-Dépinay qui a préparé cette semaine avec nous. Et avec nos trois invités, Jacques Porte, il est professeur émérite d'histoire américaine à Paris 8. Il est auteur récent d'un livre qui vient tout juste de sortir chez Armand Collin, La véritable histoire de l'Ouest américain. Mathilde Schneider sera également avec nous. Elle est conservatrice au Musée national franco-américain de Blérancourt dans l'Aisne et chercheuse spécialisée dans la muséographie des collections nord-amérindiennes en France. Enfin, Tanguy Villerbu est notre troisième invité. Il est maître de conférence à La Rochelle, auteur d'une thèse publiée aux presses universitaires de Rennes en 2007, La conquête de l'Ouest, et d'un livre également sur les missionnaires dans le Minnesota. Il travaille actuellement sur la francophonie dans l'Ohio et le Mississippi au 19e siècle. Bonjour Victor Massé-Dépinay.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour à vous Jacques Porte.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour à vous Tanguy Villerbu. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Et enfin bonjour à vous Mathilde Schneider. On va commencer avec vous si vous voulez bien. Parce que vous êtes spécialiste de la représentation des populations nord-amérindiennes en France, en particulier dans les collections publiques. Et puisque chronologiquement on va peut-être démarrer par le 17e, le 18e siècle, il était logique de vous donner la parole en premier. Alors... Vous expliquez dans différents articles que vous nous avez fait parvenir combien il y a eu un changement entre la découverte des Amériques au XVIe siècle, de ces populations donc amérindiennes, les premiers récits qui en ont été faits par les voyageurs français et qui les ont rapportés à la cour en particulier, et puis un moment de bascule aux alentours du XVIIIe siècle qui change un peu la vision des Indiens d'Amérique, Mathilde Schneider.
Oui, tout à fait. Dans les premiers récits de voyage et surtout dans les premières illustrations, notamment dans le cadre des grands voyages édités par Théodore de Brie à partir des illustrations de Le Moine de Morgue, donc vraiment à la toute fin du XVIe siècle, cet ouvrage se pose comme le creuset finalement de toute l'iconographie des allégories américaines qui vont se déployer pendant le XVIIe et le XVIIIe siècle. Le XVIIe siècle est empreint de cet esprit des cabinets de curiosité qui vont s'enrichir d'ailleurs en France, de nombreux objets nord-amérindiens rapportés par les premiers explorateurs, les premiers découvreurs, notamment je pense au casse-tête Mohawk du cabinet de la bibliothèque Sainte-Geneviève qui était ramené dès 1604 par Dugua Dumont. Donc on est vraiment dans les premiers objets rapportés de cette nouvelle France. Et puis ensuite tous les récits d'explorateurs, que ce soit le père Marquette ou Cavelier de la Salle, qui vont explorer donc cette nouvelle France qui à l'époque quand même s'étendait jusqu'au sud de la Louisiane, donc beaucoup plus importante que le Québec actuel. La bascule se fait en effet au XVIIIe siècle puisque l'esprit du siècle des Lumières va tenter de rationaliser et on assiste finalement à une émergence d'un domaine pré-ethnographique avec de très nombreux ouvrages illustrant les mœurs des Indiens et notamment des Indiens d'Amérique du Nord, bien sûr, avec Lahontan ou Grasset de Saint-Sauveur qui donc eux aussi donnent des images par typologie cette fois-ci des costumes et des coutumes amérindiennes.
Est-ce qu'on les connaît, on commence à les connaître ces Indiens, on les différencie les uns des autres ou est-ce qu'on est encore dans une vision du bon sauvage qui les mélangerait tous ensemble ?
Non, on commence à distinguer les aires culturelles et les aires linguistiques également dans cette partie est encore quand même bien sûr de l'Amérique du Nord. Simplement, ces images sont stéréotypées du fait même de leur mode de présentation dans ces ouvrages qui sont des sortes de catalogues finalement d'images d'Amérindiens. Donc les spécificités émergent et sur les planches de Grasset de Saint-Sauveur, on voit tout à fait ces distinctions. En revanche, la véracité parfois de certains détails est encore à préciser.
Victor Massé-Dépinay.
Oui, ce qui est très intéressant, c'est que dans toute notre discussion aujourd'hui, on va voir comment le regard savant sur l'Ouest américain est toujours à contrebalancer avec un regard populaire qui finalement englobe, peut-être écrase ce regard savant. Et c'est dans les collections nord-amérindiennes et dans l'image qu'on a des Indiens en France. Vous dites que dès le 18e, on commence à différencier les tribus entre elles, mais au 19e, l'image s'impose très fort. Alors avec Fenimore Cooper, le dernier des Mohicans, l'image s'impose très fort du tipi, des plumes, d'un Indien qui n'a pas vraiment d'espace ni de temps. C'est l'Indien d'Amérique, peu importe sa tribu, peu importe son historicité. En fait, c'est le même au 15e, au 16e, au 18e ou au 19e.
Oui, finalement, l'image que donne Fenimore Cooper, il faut peut-être aussi le replacer dans le contexte français qui est assez particulier, du fait même de l'histoire qu'ont entretenu les Français avec les Nord-Amérindiens, puisque les alliances avec ces tribus ont été très présentes dès la fin du XVIe siècle. Et donc, les Français entretiennent une amitié, puis une nostalgie, notamment à partir de la Tala de Chateaubriand, qui a été quand même un phénomène en tant que tel.
1801, la Tala.
1801, tout à fait. Un phénomène d'illustration très important chez Delacroix, Giraudet et les autres représentations que nous connaissons. Fenimore Cooper, lorsque paraît la version française du dernier des Mohicans en 1827 en traduction, et Fenimore Cooper est alors à Paris, lui-même en train de rédiger La Prairie. Donc il est là aussi dans un foyer tout à fait propice à la diffusion de cette image, finalement, qui en effet se réduit à un Indien, celui des Indiens des Plaines.
Victor Massé de Lépinay.
Tanguy Villerbu, vous êtes intéressé aussi à Fenimore Cooper et vous expliquez qu'une des fautes originelles, ou en tout cas quelque chose de central dans l'image que les Français se font des Indiens, c'est le basculement de Fenimore Cooper et de ses livres, de son œuvre, dans le domaine de la littérature jeunesse ou même de la littérature enfantine. Comment s'est opéré ce basculement et pourquoi est-ce que ça a marqué durablement l'image qu'on s'est fait des Indiens?
Alors, effectivement, Cooper bascule dans le champ de la littérature de jeunesse très rapidement, parce qu'il n'écrit pas pour les jeunes, évidemment. Mais en France, les romans de Cooper commencent à être adaptés pour la jeunesse dès les années 1860-1870 et perdent l'essentiel de leur fond, parce que ces adaptations sont des massacres, hein, pour le dire franchement.
Ce sont des éditeurs catholiques de province, essentiellement.
Ce sont souvent des éditeurs catholiques de province, effectivement.
Ils coupent allègrement,
ils recomposent même des fois. C'est assez étonnant de voir qu'il y a 3 ou 4 romans de Cooper dans le même livre, enfin sous le même titre. Donc avec un récit entièrement recomposé. Et ce basculement de Cooper se fait au moment où les Français eux-mêmes commencent à publier de la littérature populaire western. Aymar, Féry, etc. Sont ce courant-là aussi. Et Aymar et Féry, qui ne publient pas non plus pour la jeunesse, vont finir eux-mêmes par être transférés dans le domaine de la jeunesse. Mais un peu plus tard, effectivement, pour le coup.
Alors, ce qui est quand même intéressant, Mathilde Schneider, juste avant ce développement de l'œuvre de Cooper dans la littérature jeunesse, c'est de montrer que les aléas politiques, et hier nous étions à Versailles pour évoquer les rapports entre Versailles et l'indépendance américaine, les aléas politiques vont jouer justement toujours sur cette représentation des Indiens, parce que effectivement, la France se rêve en protectrice, d'une certaine façon, de ces Indiens. Et donc, il y a toujours, au moment de l'indépendance américaine et même après, des débats, des discussions, des représentations de cette Amérique qui serait en train de brider l'originalité, l'ingéniosité, le rapport à la nature des Indiens. Il y a une sorte de défense des Indiens parce que cette révolution américaine qu'on a portée sur les fonts baptismaux ne remplit pas l'image que l'on voudrait voir remplie d'un pays qui laisserait la place à ces Indiens.
Oui, d'autant plus que la France et les très jeunes États-Unis donc se sont battus côte à côte au nom de la liberté et de l'égalité, et dans cette égalité, les Français incluaient les Nord-Amérindiens. Or, tout de suite après la signature des accords de l'indépendance vraiment des États-Unis, les Français vont très très vite déchanter et se rendre compte que les jeunes États-Unis ne tiennent pas du tout leurs promesses en ce qui concerne justement la sauvegarde et la préservation de ces cultures et des tribus amérindiennes.
Oui, parce qu'ils considèrent qu'ils sont vils, brutaux, ces Indiens, les Américains, et donc au bout du compte qu'il ne faut pas leur laisser de place. Et donc les Français, dès la fin du 19e, 18e siècle, le duc de La Rochefoucauld commence à critiquer ces Américains pour la position qu'ils laissent dans la société américaine à ces Indiens, et ça va aller en croissant tout au long de la première moitié du 19e siècle.
Oui, alors même Saint John de Crèvecœur, qui est un des grands auteurs français présent donc au tout début du 19e siècle dans les lettres d'un cultivateur américain, va s'offusquer de ce déni finalement de la présence amérindienne par ces jeunes États-Unis. La présence française est malgré tout quand même très importante. Au début du 19e siècle, ils vont également accueillir le champ d'asile des bonapartistes exilés de France. Mm-hmm. Donc les relations sont tendues et il est clair qu'une déception apparaît du côté français. Mais les Français restent tout de même très présents.
Et les Indiens, ils vont finir par les connaître non seulement par la littérature de Fenimore Cooper, mais par l'arrivée à la cour de tribus indiennes qui viennent, y compris devant Louis-Philippe, donner des représentations. On est loin de Buffalo Bill parce que c'est à la fin du 19e siècle, mais déjà à ce moment-là, il y a cette émergence de la figure de l'Indien, les Osages par exemple, qui arrivent dès les années 1827, au moment où est publié justement Fenimore Cooper en français.
Exactement. Les visites de Nord-Amérindiens sont en fait assez récurrentes tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle, puisque Henri IV les avait déjà croisés, si je puis dire, à la toute fin du XVIe. Mais en effet, le XIXe siècle va connaître à la fois cette venue des Osages et surtout la venue et les parades, si je puis dire, des danses des Ayoway et des Ojibway de Kathleen.
En 1845, ça c'est devant...
Devant Louis-Philippe, immortalisé par Girardet.
Jacques Porte, justement, sur cette ambiguïté de la réception de ce qui se passe aux États-Unis, donc à partir de l'indépendance américaine par le public français, à la fois cultivé et peut-être moins cultivé, comme nous le disait Tonton Villermu, par la propagation d'une littérature jeunesse très importante autour de cette
question. Oui, mais il y a des paradoxes là-dedans, puis l'ambiguïté est totale. Il ne faut pas oublier que, par exemple, des Mohicans se rapportent à ce que les Américains appellent le massacre de Fort Henry, où les Américains ont reproché aux Français d'avoir laissé les Indiens piller tout.
Et il faut à quelle époque c'était?
En 1755. Et donc les Américains, ça raconte cette histoire-là, si on veut. Ce qui est quand même paradoxal que ça soit ensuite apprécié par les Français, qu'on a oublié toute cette histoire-là. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier le fait que les Français qui disent on est amis des Indiens, les Américains sont des méchants, c'est de la construction.
Ah ben, on est d'accord.
Pourquoi
c'est de la représentation des Français sur eux-mêmes.
Oui, mais pourquoi? Parce que simplement, les Français étant peu nombreux en Nouvelle-France, ont eu besoin des Indiens. Ils n'ont pas le choix. Ils ne pouvaient pas se battre sans Indiens. Les Indiens, une fois qu'ils avaient pillé, ils repartaient chez eux. Ils s'en foutaient de l'Alliance. C'était pas l'essentiel pour eux. C'est avoir de récupérer des choses, etc. et tout. Donc les Français ont eu des rapports avec les Indiens, qui étaient des rapports d'échange, mais qui n'étaient pas forcément des rapports toujours très faciles ni très heureux. Montcalm a réprimé les Indiens quand il a fallu, à la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est une construction. Bien sûr, ils n'ont pas eu à chasser systématiquement les Indiens, comme le font les Américains, ça y a aucun doute là-dessus. Mais donc il faut prendre ça avec beaucoup de précautions.
Victor Massé de l'Épinay.
Si on avance un peu dans la représentation de l'Ouest américain, là on parle beaucoup des Indiens, à partir de la fin du 19e, des années 1880-1890, une figure va s'imposer, qui est celle du cow-boy, qui dont on n'a pas encore parlé. Et là, il faut peut-être arriver à Buffalo Bill.
Ah ben oui, j'ai aucun doute.
Alors Jacques Porte, racontez-nous, Buffalo Bill est à Paris en 1889.
Oui, la première fois, oui.
Et il présente un spectacle, Wild West Show, qui va ancrer, encore une fois, et verrouiller les représentations de l'Ouest américain pour les Français.
Totalement. Parce qu'il présente un spectacle, alors qui est aussi d'une ambiguïté totale, parce que Buffalo Bill, contrairement à ce que fera Hollywood, a toujours voulu avoir des vrais Indiens. Il a demandé au bureau des affaires indiennes de lui laisser utiliser des Indiens véritables, et les plus combatifs, si possible, les Sioux, qui étaient dans les camps après les révoltes successives. Donc c'est toujours des vrais Indiens, mais des vrais Indiens qui sont à la fois qui perpétuent et imposent la vision de l'Indien des plaines, dire à cheval avec des plumes sur la tête. En gros, c'est l'Indien des plaines, c'est pas l'Indien de l'Est, c'est pas l'Indien de Fenimore Cooper, c'est pas l'Indien de Floride, non, c'est l'Indien des plaines. Donc il impose cette vision-là, il impose une vision, bien sûr, de victoire, toujours, des forces blanches et conquérantes sur les Indiens, même si les Indiens sont valeureux. Et il impose aussi, ce qui est plus nouveau, l'image du cow-boy. dit qu'il crée à partir du vaquero boueux, qui était l'employé des ranchers authentiques, un petit cow-boy en jeans et en Stetson, avec un beau foulard. Et ça, c'est que le film reprendra. Et c'est ça, une création de toute pièce du spectacle.
Oui, Tanguy Villerbu, vous avez travaillé beaucoup sur ce 19e siècle. On est peut-être un peu passé rapidement sur les années 1850, 1860, mais ce sont des années importantes parce que il y a toujours ce regret d'une France américaine qui n'existe plus, puisque la Louisiane a été vendue par Napoléon. Et donc, il y a toujours ce vieux rêve de cette France qu'on avait voulu construire et qu'on n'a jamais réussi véritablement à construire, qui va continuellement marquer le regard des Français du 19e siècle sur ce qui se passe là-bas, avec des voyageurs qui s'y rendent, avec des gens qui vont commencer à imaginer ce qu'est l'Ouest américain, qui vont aller regarder cette fraîcheur transatlantique qui respire, comme le disait Philaret Schall en 1831 dans les œuvres de Cooper, qui vont se dire qu'il y a, si on veut voir quelque chose de véritablement nouveau, il faut se rendre en Amérique. Il y a quelque chose qui naît dans ces années 1850-1860, avant l'arrivée du Buffalo Bill, et qui précède d'ailleurs peut-être la faveur qu'aura Buffalo Bill en France, qui naît dans ce regret français des États-Unis.
C'est un regret, et comme disait ma voisine de table, effectivement, il y a chez les Français cette idée que, en fait, on critique la politique indienne des États-Unis pour mieux vanter de manière très nostalgique cette Nouvelle France que l'on mythifie complètement, mais il y a aussi effectivement dans la France du 19e des milieux qui veulent effectivement réactiver en permanence cette alliance indienne et cette qui est mythique, mais qui essaie de la réactiver. Et effectivement, le milieu du 19e siècle est intéressant pour ça, parce que c'est notamment l'émergence, on l'évoquait tout à l'heure, de Gustave Aimard, qui est le principal romancier populaire français western, qui est traduit en Angleterre, qui est traduit aux USA, et dont une bonne partie de la production vise à défendre les Indiens et les Mexicains contre l'invasion des Américains. Donc on réactive un peu ce mythe-là. Et il y a un autre milieu qui réactive.
Il a beaucoup de succès, Gustave.
Il a un succès énorme. Il a un succès énorme, Aimard, évidemment. Et il y a un autre milieu qui réactive cette chose-là, que l'on a du mal à voir aujourd'hui, c'est le milieu catholique. Parce que l'essentiel du clergé français dans l'Ouest américain est français. Ce sont des missionnaires qui vont pour les colons, mais aussi pour les Indiens, en essayant de réactiver justement cette alliance indienne. On trouve certains missionnaires qui essaient, même auprès de l'État fédéral, de dire il faut qu'on récupère les vieilles terres jésuites pour relancer ces missions-là. Et on trouve jusqu'au début du XXe siècle des missionnaires auvergnats dans le Nouveau-Mexique et l'Arizona qui disent clairement dans leurs lettres, ce n'est pas les États-Unis.
Oui, parce que
c'est autre chose, et il faut un clergé français.
Parce que les gros bourgs qui avaient pour prétention de devenir des capitales des nouveaux États américains qui avaient été fondés sous les Français, Vincennes par exemple, va être transférée dans un autre endroit pour devenir ensuite plus tard Indianapolis en Indiana, et on va vouloir un temps préserver cette France américaine qui ne tiendra pas en fait au bout du compte face au nombre d'immigrants et face en particulier à tous ces immigrants qui sont protestants, et donc cette France catholique américaine va devoir céder, et il y a une sorte de regret là encore, Tanguy Villerbu.
Elle s'épuise à partir du milieu du siècle, effectivement, et il y a un regret, alors qu'il n'est pas partagé par tout le monde, mais il y a un regret.
Born on the mountaintop in Tennessee, greatest state in the land of the free. Raised in the woods, so he knew every tree. I killed him a bear when he was only three.
Davy Crockett,
yes, king of the wild frontier. Off to the woods he's marching along, making up yarns and singing a song. Itching for fighting and righting the wrong, he's ringing as the bear and twice as strong.
Davy Crockett, qui n'a jamais peur.
Qui n'a jamais peur. À 14 ans, il s'était perdu dans un désert vaste et inconnu. Pendant 10 jours, il marcha vers le sud sans rien manger qu'un petit peu d'herbe crue.
Davy Crockett, qui n'a jamais faim.
Qui n'a jamais faim.
Une différence, peut-être pas de qualité, en tout cas dans la qualité des paroles, entre l'œuvre de Louis Armstrong et celle d'Annie Cordy, qui raconte pourtant théoriquement la même histoire, Victor Massé-Lépinay.
Oui, Louis Armstrong, le refrain « Davy Crockett, King of the Wild Frontier ». Et on va introduire maintenant une notion qui est très importante dans l'histoire de l'Ouest américain, c'est celle de frontière. Et il faut parler d'abord de celui qui a théorisé cette frontière. Avec vous, peut-être Jacques Porte, c'est Turner. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que cette frontière pour Turner et pourquoi est-ce qu'elle s'est imposée très durablement, encore une fois, dans l'historiographie américaine.
Et puis européenne. Mais bah, la frontière, c'est un terme de part qui est utilisé avant Turner, hein, qui est déjà utilisé avant Turner pour signaler simplement une zone de colonisation, pas une frontière limitée, une zone de colonisation.
Une zone, d'une
oui,
certaine
une
façon.
Zone.
Et le terme est synthétisé en 1893 par
Turner. Mais Turner en fait un système.
Un processus.
Il explique l'histoire américaine par la création de la frontière, d'ailleurs. À une époque où la frontière n'existe plus, puisqu'en 91, le recensement de 1891, le recensement dit qu'il n'y a plus de terres inconnues aux États-Unis. Tout a été exploré, tout n'est pas peuplé. Mais tout est exploré, donc il n'y a plus de frontières. Et lui, il explique à ce moment-là, remontant au XVIIe siècle, que les États-Unis se sont fondés grâce à l'ouverture vers l'Ouest. Et que c'est dans l'Ouest que s'est créée la démocratie américaine. Ce qui est tout à fait discutable, c'est pas vrai, mais peu importe. Il explique comme ça, et il explique comment donc l'originalité de l'histoire américaine repose sur l'ouverture vers l'Ouest. Et que se sont formées dans l'Ouest les grandes valeurs des Américains, qui ont utilisé les Indiens, puis ils ont repoussé sur les côtés parce qu'ils n'en avaient plus besoin. En gros, il le dit carrément. Et donc, cette idée de Turner, du progressisme de Turner, va irriguer toute l'histoire américaine jusqu'aux années 1950.
Ouais.
On explique tout par la frontière.
Oui, Tanguy Villerbu, après la matrice coopérienne dont vous parlez dans votre travail de thèse, donc sur la qui s'est imposée donc de cette image de bas de cuir donc dans la culture de masse européenne à propos de l'Ouest américain au 19e siècle, il y a à la fin du 19e siècle justement cette matrice turnerienne, pourrait-on dire, qui va aussi avoir une très grande durée dans la représentation que l'on se fait aux États-Unis, mais aussi en Europe et en France en particulier, des États-Unis et de l'Ouest américain.
Oui, alors effectivement, alors deux choses, je pense, là-dessus. D'abord, pour dire que Turner, en fait, il ne fait que transposer dans la science, effectivement, des idées qui circulent
oui,
très très longtemps.
Hein.
C'est effectivement, il crée un système scientifique à partir d'un fond qui lui préexiste largement. Et effectivement, c'est diffusé en France. Hein, l'hypothèse Turner, elle est connue en France dès l'année suivante. Hein, on la connaît. Parce que
1794, donc dès la fin du
19e. Oui, 1894. On le trouve dans des bouquins et des articles français dès l'année suivante, parce que ça c'est très bien passé, en fait. Hein. Et ça correspond également à une partie du discours français. Donc les Français se retrouvent dans cette hypothèse-là, qui a un effet induit assez paradoxal, qui est qu'elle entretient la nostalgie, puisque le discours de Turner, c'est aussi de dire que c'est fini l'Ouest, finalement.
Oui, absolument.
Donc ça entretient aussi cette idée que voilà, on va basculer dans le rêve et dans ces Indiens finis, etc. Donc,
oui, avec cette idée que cet Ouest américain, il a permis à la fois de conquérir des valeurs démocratiques parce que chacun devant aider l'autre pour pouvoir composer, défricher, etc. Et puis de l'autre côté, il a eu une fonction très importante par rapport à l'Est américain, puisqu'il a permis comme ça de décharger des tensions sociales, disait Turner, vers l'Ouest américain et donc d'éviter que ça n'explose à l'Est. C'est cela la
oui,
thèse de...
Une des thèses de Turner, qui est un mythe évidemment.
Total.
Parce qu'aujourd'hui on travaille sur les conflits sociaux à Chicago ou ailleurs qui sont très violents à la fin du 19e.
Même la violence de la conquête de l'Ouest elle-même.
Mais bien sûr.
Il n'y a pas du tout d'entraide tout le temps, ils se tapent dessus.
Et une historienne américaine a très bien expliqué dans les années 80 que le lieu des États-Unis où les luttes de classe au sens marxiste du terme c'était le mieux exprimé, c'était l'Ouest en fait.
Victor Massé-Lépinay.
Oui, parce que cette vision de Turner de la frontière, Mathilde Schneider, elle sera critiquée finalement, surtout à partir des années 80, avec une New West...
1980.
Oui, 1980. Très tard, un siècle plus tard quasi.
Mais si on veut la caractériser, on peut dire qu'elle est essentiellement épique, essentiellement blanche, essentiellement masculine. Il n'y est pas question vraiment des femmes, et il n'y est plus question des Indiens, autrement que comme un à côté de la frontière, enfin, ou ce qu'il faut repousser au-delà des marges, puisque la frontière a aussi ce rôle de soupape de sécurité. On repousse de l'autre côté de la frontière tout au long du processus de colonisation, ce qui mène le pays en danger.
Oui, en effet, le statut civil des Nord-Amérindiens va être extrêmement précaire pendant toute la fin du 19e jusqu'au début du 20e siècle, puisque finalement c'est la Première Guerre mondiale qui va permettre une certaine reconnaissance du statut des Indiens à ce moment-là réunis dans des réserves. Et ce n'est seulement qu'à partir des années 1960 que les Amérindiens vont reprendre, si je puis dire, leur combat en main pour se faire reconnaître. Mais comme le disait Tanguy Villerbu, cette notion de rejet finalement américain face aux Nord-Amérindiens ne fait encore une fois qu'accroître le sentiment français de préservation et de nécessité de préservation de ces cultures en voie de disparition.
En quoi, Jacques Porte, la représentation du cinéma naissant à la fin du 19e et au tout début du 20e siècle va-t-elle aider à la propagation, non plus par l'écrit mais par l'image, de cette idée de frontière, de cette idée de l'Ouest américain et de la naissance de ce qui était à l'écrit, le western écrit, mais qui va devenir le western cinématographique.
Oui, justement. Mais ça, oui, tout à fait. Les premiers films de western apparaissent tout à fait au début, hein, dès 1896, 97. Il y a déjà des petits westerns tournés dans le New Jersey, tournés n'importe où. Si quelques arbres, quelques chevaux suffisaient. Mais ça utilise. Et d'autre part, les premiers films ont utilisé très rapidement les dime novels, les petits romans américains. Qui avait des genres de l'Ouest très simples, pour servir de scénario, si on veut, à ses premiers films. Comme plus tard, les romans sur l'Ouest servaient en scénario aux films plus ambitieux des westerns. C'est un mouvement qui se crée en continuité, disons, complète.
Et c'est ce qui est très intéressant quand on vous lit Tanguy Villerbu, c'est ce croisement, comme le disait tout à l'heure Victor Massé de l'Épinay, entre culture savante et culture populaire. C'est-à-dire, c'est que un intellectuel, Turner, invente cette idée de frontière ou la synthétise, comme on l'a dit tout à l'heure, et en même temps, cette idée de frontière trouve une illustration très rapide dans les représentations qu'on fait de l'Ouest américain dans les romans et dans les films.
Tout à fait, et on pourrait presque dire que le XXe siècle entier est un siècle, c'est le siècle de Turner, effectivement. Que ce soit dans le cinéma ou dans la bande dessinée qui, pour la France, est actuellement et depuis quand même une bonne trentaine d'années le principal vecteur de cet imaginaire de l'Ouest. Dans l'ensemble, on pourrait dire que ça reste très turnerien, effectivement, comme imaginaire. Et ce que vous avez dit sur cet Ouest qui est un Ouest d'hommes, c'est masculin, je crois que le thème de la masculinité est fondamental sur le XXe siècle, dans cette vision de l'Ouest, évidemment.
Prends tes chevaux, ta femme et tes gosses. Là-bas, il y a de l'eau. Ah oui, prends ton fusil et n'oublie pas tes bottes. Viens, il en est temps encore. Oh oui, jette ta clé, laisse la porte ouverte. Achète-toi un chariot. Oh oui, prends une pelle. Et aussi une pioche, là-bas c'est l'Eldorado. Oui, c'est la course vers l'or, c'est la course vers l'ouest, et c'est la grande course pour la vie. C'est la course des hommes, des espoirs et du reste, vers l'inconnu des mondes périls.
La fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
En 1800, presque 92, l'aventure nous appartient. Oh oui, garde ton eau, ne perds pas tes cartouches. Fais attention aux Indiens, car c'est la...
Et oui, encore un grand auteur, Johnny Hallyday. En l'occurrence, ce n'est pas lui qui l'a écrit, je crois. Je pense que ça doit être Philippe Labro à l'époque, en 1975, dans ce grand album de Johnny, où il est représenté avec un Stetson, et qui s'appelle La Terre Promise. Mais là, ça s'appelle La Ruée vers l'or. On a tous les poncifs, là. Et d'abord, il s'adresse à l'homme. Prends ta femme, tes enfants, tes chevaux. Tanguy Villerbu.
Alors, d'abord, je vous remercie de m'avoir fait connaître ce chef-d'œuvre que j'ignorais. Et là, je pense que je m'en servirai en cours avec les étudiantes, celle-là, parce qu'elle est vraiment très bien pour ce maniement des poncifs, effectivement. Effectivement, c'est l'homme, et c'est quelque chose qu'on le retrouve notamment depuis la naissance de cet imaginaire cow-boy, hein, qui est vraiment un imaginaire masculin. avec des textes français. Je pense à un texte de Paul Bourget à la fin du 19e, où il fait dire à un cow-boy qu'en fait la vie du cow-boy était merveilleuse, c'est effectivement l'homme qui se retrouvait face à la nature, qui c'était la seule manière d'exprimer son corps, et que ce monde-là est terminé à cause des femmes.
Oui, c'est au moins c'est la vertu d'être clair. Victor Massel Lépinet.
Oui, on parle beaucoup. Il y a la chanson. On a évoqué rapidement la bande dessinée. On parle du cinéma. Encore une fois, sur cette articulation entre culture populaire et culture savante, quand est-ce que aux États-Unis ou en France, on a pu commencer à avoir des historiens, est-ce que c'est même possible, qui arrivaient à travailler sans ce terreau de culture populaire? On a l'impression que les historiens sont engloutis dans cette culture populaire et n'arrivent pas à s'en sortir.
Jacques Porte.
Ben, c'est très difficile d'en sortir. Quand c'est imposé par le film, par la culture populaire, par les romans, par tout ça. Il faut attendre, même aux États-Unis, les années 1980, de Limerick et tout, qui va renouveler complètement l'histoire de l'Ouest, voir le rôle des femmes, voir le rôle des minorités, tout ça va venir, mais très longtemps après. Et en France, d'après ce que il n'y avait quand même pas énormément d'intérêt universitaire vers l'Ouest, il y en avait, mais pas tellement. C'est l'affaire de quelques individus, et qui étaient donc forcément dépendants des sources américaines. Pour la plupart. Mm-hmm. Donc, il colportait.
Du regard américain.
Ben oui, il colportait nécessairement ces grands thèmes américains.
Sources américaines qui vont mettre parfois du temps à être traduites, puisque Turner ne sera traduit par René Raymond, je crois, enfin, ou en tout cas, dans une édition préfacée par René Raymond, seulement en 1963.
Oui, Tanguy Villerbu.
Oui, alors effectivement, là je rejoins en partie ce que dit Jacques Porte, il y a un renouveau de l'histoire de l'Ouest aux États-Unis dans les années 80, mais bon, il y avait déjà une contestation de Turner avant, hein. Dès les années 1930, on a des gens qui contestent Turner, dans les années 50 aussi, mais le renouveau date des années 80, et en même temps aux États-Unis, encore aujourd'hui, vous avez des historiens qui empruntent encore les chemins de Turner,
oui,
sans aucune hésitation, hein. Mais on a renouvelé. Mais effectivement, en France, c'est long, et je dirais sans hésiter que pendant longtemps, les meilleurs historiens français de l'Ouest, ce sont Maurice et Goscinny. Hein.
Ça, c'est très original. Pourquoi, vous qui avez travaillé aussi sur la BD et la représentation en BD de l'Ouest américain?
Tout simplement parce que au moment où ils inventent Lucky Luke, dans les années, enfin, la fin des années 40 et jusqu'aux années 60-70 où émergent quelques historiens de l'Ouest, les historiens des États-Unis en France, quand ils traitent l'Ouest, le traitent très mal, faut bien reconnaître, dans une optique extrêmement turnerienne et très limitée. Et Maurice et Goscinny, eux, en fait, ont une approche plus riche de l'Ouest que les historiens français à l'époque. Sincèrement, c'est assez étonnant.
Vous donnez des possibilités donc à tous ceux qui s'intéressent à l'Ouest à relire Maurice et Goscinny.
Il faut
plutôt
relire
que
Maurice
relire.
Goscinny,
alors, ouais. Parce qu'ils étaient nombreux ceux qui travaillaient sur ça dans les années 40, 50 en France, et vous dites ça vaut pas le coup.
Je crois que sur ces années-là, il vaut mieux relire Lucky Luke, effectivement.
Ouais. Et alors donc ce tournant dont vous avez tous parlé à un moment ou à un autre, cette New Western History, donc qui naît aux alentours de 1980.
Oui, à peu près, oui.
Jacques Porte, en quoi est-ce un moment important dans la représentation par les Américains eux-mêmes de leur propre histoire, mais aussi dans l'exportation d'une nouvelle image, peut-être, de l'Ouest américain?
Pour les Américains, c'est quand même important, disons. Ben, c'est lié tout ça aussi au mouvement des droits civiques. Pour donner un exemple, les Indiens, au début du mouvement des droits civiques, ne se sentent pas concernés par ça. Ils estiment qu'ils n'ont pas la même position que les Noirs, qu'ils étaient là toujours, qu'il n'y avait pas de raison, qu'ils demandent des droits qu'ils devaient avoir. Et puis, des activistes indiens décident quand même qu'il faut profiter de ce mouvement. Il y a des choses qui se passent, on ne peut pas les ignorer. Et ils vont s'emparer d'Alcatraz, en 72.
Et puis, il y a Woodhandy aussi, à la même époque.
Oui, mais qui vont avoir pour effet de renverser complètement l'opinion américaine. Jusqu'avant, l'opinion américaine était plutôt ou indifférente ou hostile aux Indiens. Et tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup, ça prend du temps, mais il y avait déjà des gens qui le pensaient. Mais ces événements donc alertent une bonne partie de l'opinion américaine que les Indiens étaient à plaindre, avaient des raisons de se plaindre, avaient des raisons de protester, et qu'il fallait les aider. Et tout ça a été lié aux historiens américains, tout ça est un ensemble. Qui commence à travailler sur la réalité de l'Ouest, sur les Indiens, sur les femmes, sur toutes ces choses-là.
Oui, Tanguy Villerbu, cette question qui émerge progressivement, donc dans ces années 1980, ces questions, parce qu'il n'y a pas une seule, il n'y a pas une seule vision de l'Ouest, il y en a plusieurs qui sont plus éclatées, plus variées qu'elles ne l'étaient auparavant.
Oui, et si on là se concentre sur la bande dessinée, qui est, je le répète, hein, le principal vecteur depuis 40 ans de cette image de l'Ouest en France, effectivement, les années 70 marquent un tournant, alors qui est assez complexe malgré tout, mais un tournant au sens où apparaissent des héros de bande dessinée qui sont des héros blancs, fait toujours, mais qui vont à la rencontre des nations indiennes, et on a des héros qui épousent des indiennes, qui vivent auprès des indiens, qui s'imprègnent de la spiritualité indienne.
Blueberry,
par exemple, alors, avec des auteurs qui réinventent la spiritualité indienne dans un esprit New Age. Hein, il s'agit pas, là, c'est un mythe à nouveau, hein, mais complètement. Hein. Mais y a un tournant qui est ambigu parce que je pense à un cas en particulier. Souvent, quand les héros blancs de bande dessinée épousent des indiennes, en fait, ils ne restent pas dans la nation indienne. Ils emportent la femme indienne pour faire un petit ménage bourgeois blanc finalement, malgré tout. Hein. Bon. Donc, on ne va pas jusqu'au bout de la logique qui est de l'intégration aux nations indiennes.
Oui, donc il y a un début d'intérêt en tous les cas, qui est traduit aussi, j'imagine, dans le roman américain par la naissance des premiers ouvrages de Tony Lehrman, par exemple, qui raconte un autre Ouest américain que l'Ouest américain qui avait été raconté par les écrivains blancs du 19e siècle, Tanguy Villerbeu.
Voilà, effectivement, on est dans ce tournant-là, mais qui est un tournant qui concerne à la fois, enfin qui est profondément atlantique, hein, c'est l'Europe, les États-Unis,
oui,
et ça concerne le roman, le cinéma, etc. Tout.
Mathilde Schneider.
Oui, ce qui est amusant, c'est que puisqu'on parle aussi de la vision française de cet imaginaire de l'Ouest, à ce moment-là, dans ces années-là, 60-80, le milieu des westerners français est quand même extrêmement présent. La vallée des Peaux-Rouges vient d'ouvrir et ils invitent à ce moment-là, donc ce sont des passionnés de western, dans la suite des Joe Haman et Paul Cause.
Joe Haman, il faut rappeler, c'était ce cinéaste français camarguais, enfin qui tournait en Camargue.
Qui a d'abord tourné à Aubervilliers.
Oui, c'est ça, il a d'abord travaillé à Aubervilliers, puis ensuite en Camargue, voilà. Pour représenter des westerns français.
Et la vallée des Peaux-Rouges, qu'est-ce que c'est?
La vallée des Peaux-Rouges, c'est donc à Ermenonville actuellement.
C'est Jean-Richard qui l'ouvre,
exactement,
je crois.
Avec Robert Matta et notamment Maurice Desrumaux. Ils vont inviter Joe Haman d'ailleurs quelquefois, et surtout ils invitent des Indiens à venir réaliser des ateliers, que ce soit presque des cours linguistiques ou des activités typiquement indiennes, toujours dans cette même nostalgie quand même très atalesque finalement des cultures amérindiennes.
Victor Massé-Lépinet.
Oui, c'est intéressant que cette New Western History qui arrive dans les années 80, où on commence à avoir la place des femmes, la place des Indiens, la place de l'environnement aussi, on a l'impression qu'elle succède encore à la culture populaire, puisque dans les années 60, peut-être au moment de la guerre du Vietnam, la fin des années 60, les westerns de Sam Peckinpah ou de quelques autres, ou Little Big Man, c'est quand même autre chose que les westerns épiques des années 30-40, les premiers westerns de John Ford.
Là, il n'y a aucun doute, même que les derniers des années 60, 50 et 60. C'est la cassure complète, là.
On a l'impression que l'histoire succède à une vision qui est d'abord artistique.
C'est très lié à la guerre du Vietnam. C'est-à-dire que il faut pas oublier que les opérations de la guerre du Vietnam se faisaient avec des termes indiens. Avec les ranchs, les ranchers, les termes de western.
Geronimo.
Et tout ça a contribué à choquer profondément, bien sûr, les cinéastes et tout. Donc l'arrivée de Little Big Man en 68 constitue un choc parce que il est très lié à la guerre du Vietnam, mais il montre l'atrocité des exactions des troupes blanches. Et en même temps, il inverse la chose. Ce n'est plus les blancs qui sont les héros, ce sont les Indiens qui sont accueillants, qui sont gentils pour le héros. Le héros se marie avec une Indienne, mais il s'en va pas, lui. Il reste. Bah, c'est compliqué parce qu'il fait des allers-retours. Mais enfin, ça fait un choc. Peckinpah, c'est pareil. Ça montre un Ouest dur, violent, avec des mecs qui sont des brutes, avinés, qui violent tout le monde, etc. Ça change tout. Et à ce moment, le Western s'effondre. Il n'y a plus de western.
Oui, il va falloir effectivement un autre moment.
Il n'y a plus de genre western.
Il va y avoir un autre moment où effectivement cette question va être reposée. Ce sont les portes du paradis, par exemple, de Michael Cimino, qui relise la naissance. Alors là, vraiment, on est dans une post-turnerisme, pourrait-on dire. Il relise la naissance des États-Unis de façon totalement différente au cinéma de ce qu'elle avait été racontée, de la façon dont elle avait été racontée auparavant, Tanguy Villerbeau.
Oui, et en même temps, comme ce film a eu un échec total, finalement, il n'a pas de postérité. Donc c'est assez étonnant, malgré tout. Sachant qu'il a été montré en plus à l'époque dans une version courte, on l'a mal compris, mal vu. Donc effectivement, le rôle historique de ce film-là me semble un petit peu limité malgré tout. Mais il est intéressant dans la carrière notamment de Palma, de Cimino, parce que après son film sur le Vietnam, Vietnam, finalement, il fait un film sur la conquête de l'Ouest. Et effectivement, ça renvoie à cette idée que la guerre du Vietnam est un vrai tournant, effectivement, dans cette vision de la conquête.
Mais néanmoins, on va voir renaître plus tardivement, avec Clint Eastwood ou d'autres auteurs de ce type-là, à nouveau une renaissance du western, peut-être un peu différente, peut-être un peu plus violent, surtout qu'auparavant, mais qui n'est pas dans la contestation de ce qui a été dit tout à l'heure par Jacques Porte, Tanguy Villerbu.
Là, le western actuel est d'abord assez ténu, comme il y a vraiment un fil ténu dans la production.
C'est un genre.
C'est vrai que, mais après, les westerns d'Eastwood sont avant tout des films d'Eastwood plutôt que des westerns.
Bien sûr.
Ce sont des qui brassent les thèmes que Eastwood utilise dans ses autres films. Et en maintenant vivante, hein, cette mythe de l'Ouest masculin, pour le coup, là, très nettement, chez Eastwood, le corps d'Eastwood est un corps qui continue d'entretenir ce mythe du corps masculin.
Parce qu'il a lui-même commencé en tant que jeune acteur dans des westerns.
De ce point de vue-là, c'est assez fabuleux. Alors que les westerns récents, certains westerns récents, je pense à un western allemand, par exemple, qui s'appelle Gold, qui est sorti il y a 2 ans, et qui était extrêmement intéressant parce que l'héroïne est une femme, justement. Et la seule qui survit, parce que c'est l'histoire d'une quête vers l'or dans l'Ouest, et c'est un groupe de migrants, et la seule qui survit, c'est une femme, effectivement. Et là, on a une vision différente, effectivement.
Et dans Tarantino, c'est un noir qui est le héros du western, qui était bien sûr impensable.
Oui, et d'ailleurs, il vient d'en sortir un autre, qui est un remake des 12 salopards, qui lui-même, effectivement, met en scène...
Les sept mercenaires,
qui met lui-même en scène un noir à la tête de ce groupe des sept mercenaires. Mathilde Schneider.
Oui, beaucoup plus, enfin, encore plus récemment, la réappropriation à la fois du genre western, mais aussi de la notion de frontières par des cinéastes français. Je pense notamment au Cowboy de Thomas Bidguin en 2015 et aussi aux Apaches de Nassim Amaouch, dont le titre est quand même très révélateur. Lui s'inscrit dans une histoire de la vision française des Amérindiens, puisque les Apaches étaient les petits bandits de Belleville à la fin du 19e, début 20e. Et cette notion de frontière, de l'homme libre au-delà de l'Occident et de l'Europe civilisée, cette fois-ci se retourne vers l'Est et en l'occurrence le Proche-Orient, avec la notion d'islamisme intégriste.
Oui, on voit bien tout de même combien il est difficile, c'est ce que disait tout à l'heure Victor Massé de l'Épinay, Jacques Porte, de faire éclater cette gang de références littéraires, références cinématographiques, références picturales, qui nous ont enfermés dans une vision d'un Ouest. C'est pour ça d'ailleurs que vous appelez votre dernier livre, cher Armand Collin, La véritable histoire de l'Ouest américain. C'est extrêmement difficile parce que le travail de l'historien, c'est de relativiser, c'est de faire sauter les stéréotypes, mais ces stéréotypes sont continuellement réactivés, en l'occurrence Jacques Porte.
Oui, c'est-à-dire qu'on peut les décrypter, les stéréotypes, on peut pas les faire disparaître. Ils sont trop forts, ils sont trop puissants, d'une certaine façon. Or, ce qui est frappant, justement, c'est que l'Ouest américain a créé, depuis le départ, des stéréotypes, depuis le départ, des mythes, depuis le départ, à partir de ces réalités. Les paysages sont admirables, c'est incontestable. Et c'est vrai qu'ils sont très frappants et ça reste une qualité. Les Indiens présentent aussi un intérêt, que les Français s'aperçoivent, certains, qu'il y a des noms français dans les Rocheuses.
Ah oui.
Et le grand téton, c'est pas les Américains qui l'ont appelé comme ça. Ce sont les coureurs des bois. Et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment un intérêt qui se crée et un mythe parce qu'ils ne savent pas très bien pourquoi. Donc, tout ça se crée tout le temps.
Et d'autant que les paysages qui ont été pris pour paysage de studio, mais transcrits dans l'Ouest américain, comme Monument Valley, sont devenus des lieux de pèlerinage, non pas pour voir Monument Valley en soi, mais pour voir Monument Valley filmé par John Ford, dans Tanguy Villerbu.
Oui, parce que sinon, enfin, c'est quand même un lieu qui n'est pas habitable en soi. Donc, non. Ça n'a été habité que par Ford et ses acteurs, finalement, la vallée.
Il n'y a pas de ferme, il n'y a rien.
Il ne peut rien. Et ce qui est frappant dans les westerns de Ford, c'est à quel point il arrive à mettre des fermes dans des endroits où il ne peut pas y en avoir. Ça, c'est toujours assez étonnant.
Elle irait où?
Et c'est surtout ce qui est très frappant aussi, c'est que tout compte fait, le travail que vous faites, Tanguy Villerbu, actuellement sur la présence française dans cet Ouest américain et dans ce qui a été anciennement la Louisiane, montre qu'il faut toujours le rappeler, que ça a été oublié, que ça a été, disons que ça fait partie des couches sédimentaires sous lesquelles sur lesquels se sont installées les autres couches de représentation de l'Ouest américain, et en particulier ce western classique que l'on a tous en tête.
Ouais, il faut toujours le rappeler, y compris aux Américains eux-mêmes, effectivement.
Oh,
c'est une vraie lutte, on va dire, pour les historiens de rappeler leur histoire française.
Et qu'est-ce qui échoue dans la transmission de ces nouvelles idées, justement? Qu'est-ce qui fait que, malgré votre travail, Jacques Porte, malgré votre travail, Tanguy Villerbue, ou à vous, Mathilde Schneider, vous sentez de la réticence, c'est-à-dire que le travail savant a du mal à passer le cap, le parapet, pourrait-on dire, face à toutes ces représentations, Tanguy Villerbue, quel est votre avis?
Effectivement, là, le poids du récit de l'Ouest, plus que des mythes, à la limite du récit de l'Ouest, on travaille effectivement sur une masse telle de récit de l'Ouest qu'il est difficile de s'imposer. C'est là. Mais il faut se servir de ce récit pour s'imposer, me semble-t-il.
Mathilde Schneider.
Oui, juste pour finir, tout simplement parce que c'est vraiment le mythe fondateur, cette conquête de l'Ouest de la nation américaine, et que de le démonter, notamment depuis l'étranger et depuis l'autre côté de l'Atlantique, c'est d'autant plus délicat et difficile. Nos Américains contemporains ayant encore une relation forte de culpabilité avec l'histoire qu'ils ont infligée en tant qu'Euro-Américains aux Nord-Amérindiens.
Il faut se souvenir du très beau livre publié récemment, Des ombres à l'aube, qui raconte justement la frontière, mais là, la véritable frontière entre Mexique et États-Unis. C'était il y a 2 ans ou 3 ans chez Anna Carcy. Je vous conseille cette lecture parce que c'est un grand livre justement qui nous raconte la cohabitation entre ces différentes populations à la frontière américaine.
Uh-huh.